quête de cinéma. Octobre, une enquête de cinéma qui nous amène au Liban.
سكن الليل وفي ثوب السكون تختبي الأحلام سكن الليل وفي ثوب السكون تختبي الأحلام وسع البدر وللبدر
Lundi 5 octobre, le temps est assez clément aujourd'hui. Alors le Liban, avec Mathilde Rousset et Wahib Mortada.
سكن الليل وفي ثوب السكون تختبي الأحلام وسع البدر وللبدر عيون 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 ترصد الأيام فتعالي يا ابنة الحقل نزور كرمة العشاق فتعالي ابنة الحقل نزور كرمة العشاق علنا نطفي بذياك العصير علنا نطفي بذياك العصير حرقة الأشواق
Et au Liban, nous allons parler de la cinéaste Jocelyne Saab. Voilà, on va passer une heure et demie avec le cinéma de Jocelyne, avec Wahib Mortada et avec notre invitée que nous sommes heureux d'accueillir, Mathilde Rousset. Salut. ça marche ton micro? Ah, attends, non, je ne l'ai pas. Vas-y. Ouais. Voilà, c'est bon, ça marche. Alors voilà, donc Jocelyne Saab. Pour commencer l'émission, juste pour donner un petit goût, qu'est-ce qu'on pourrait dire en quelques phrases avant de rentrer dans le vif ?
Sur Jocelyne était une cinéaste libanaise. Elle est née en 48, elle est née de la Nakba palestinienne et elle a suivi toute sa vie des orientations politiques qui ont toujours été les siennes. Et elle a fait un cinéma qui lui a ressemblé et qui a été un cinéma militant, engagé pour ses idées politiques qui ont toujours été en faveur de l'humain, de la vie, de la liberté.
Et c'est aussi une cinéaste de guerre ?
C'est une cinéaste de guerre, c'est une cinéaste qui n'a pas couvert que la guerre, qui a aussi couvert la danse, la vie, la liberté dans tout ça, et le corps des gens vivants. Même dans la guerre, même dans l'espace public, dans des sociétés qui sont oppressives ou pas, c'est au-delà de la guerre, elle a essayé de chercher la vie.
Et comment ça a commencé pour elle ?
leurs études d'économie en sortant du lycée à Beyrouth. Et ses études d'économie l'ont menée à faire du journalisme. Elle a commencé à travailler comme stagiaire à la radio déjà, et puis stagiaire en presse écrite. Et peu à peu, elle a trouvé une place à la télévision, sur France 3, auprès de Cavada, qu'il a envoyé faire ses premiers reportages de guerre en Libye, puis en Égypte. Elle a couvert la guerre d'octobre, et elle est arrivée petit à petit au Liban, où elle est restée pendant 10 ans pour couvrir la guerre civile, et c'est là qu'elle a découvert le cinéma.
D'accord. Alors, tu disais qu'elle a commencé dans l'émission de...
Cavada.
Alors, ben voilà, on y est à ce fameux Cavada, et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec... Un petit extrait, qu'est-ce qu'on pourrait en dire de cet extrait, Waib? Est-ce qu'on dit quelque chose avant?
Bah, tout simplement, pour rappeler que c'est... il s'agit d'un extrait du plateau télé, donc dirigé par Jean-Marie Cavada. L'émission s'appelait Raconter la guerre, et ça se passait en octobre 1981.
D'accord. Je l'envoie.
Voilà, si tu peux.
Kourou.
Alors, j'envoie l'émission. C'est parti.
Céline Saab est journaliste et cinéaste libanaise. C'est une femme, comme vous l'observez. Et ce petit mot, qui est vraiment totalement dépourvu d'ironie, ne va pas sans une certaine importance dans le métier, pour une raison tout à fait simple, la cueillette du renseignement, la cueillette de l'information. Mais ça ne va pas non plus sans difficulté. Les fatigues physiques, les choses à affronter ne sont peut-être pas de la même nature pour une femme et pour un homme. Jocelyne, est-ce que dans le cas de la guerre du Liban, le fait d'être une femme journaliste est un avantage par rapport à vos confrères masculins?
Je ne sais pas si on peut poser le problème en tant qu'avantage ou désavantage, parce que quand on est sur les lignes de feu, qu'on est dans une ville qui est en train de se faire bombarder, je ne crois pas qu'il y ait une distinction entre homme ou femme, et qu'à la recherche du métier, il est évident... que face aux hommes politiques, face aux contacts, aux interviews qu'on doit faire, ça pourrait poser des problèmes. Mais je crois qu'en Orient, l'effet de surprise joue, et étant une femme, au contraire, pour moi, ça a été toujours très facile.
Oui, et le fait d'être une journaliste de terrain, est-ce que c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué? Est-ce que la guerre est plus dure pour une femme que pour un homme?
Il faut demander aux hommes.
Non,
je crois qu'on voit, il ne s'agit pas, encore une fois, je ne pose pas le problème comme ça, il ne s'agit pas de voir si c'est plus difficile pour une femme ou pour un homme, je crois que c'est un regard différent. Pendant ces 7 années de guerre et les 3 ou 4 où il y avait les bombardements intenses, je n'ai jamais voulu montrer la guerre avec ses chars, ses obus, ses cadavres et ses morts, mais j'ai toujours voulu montrer les hommes, ceux qui souffraient, ceux qui vivaient et ceux qui supportaient cette guerre quotidiennement, parce que je faisais partie de cette population.
Qu'est-ce que vous avez souhaité privilégier dans le spectacle, soit dit sans aucune volonté démonstrative, de ce que vous vouliez faire voir aux gens qui vous regardaient dans cette guerre? C'est quoi? Ce sont les fêtes militaires? C'était la souffrance des gens? C'était les enfants? C'était quoi?
Je crois qu'il y a un temps, une période pendant cette guerre, du moins au début, pendant les 2-3 premières années, de 75 à 77, disons, où on ne pouvait pas ne pas être passionné. On était pris, on défendait certaines idées, on croyait à certaines idées. Il est arrivé un moment en 76 où la guerre offrait la possibilité, on croyait que tout était possible. Donc on ne pouvait pas ne pas s'engager. Je crois que c'était une erreur de ne pas s'engager, de prendre parti. Puis avec le temps, on s'est rendu compte, du moins personnellement, je me suis rendu compte que la guerre était absurde, que ça allait beaucoup plus loin de là, puisque depuis 1h30, vous essayez tous d'expliquer... que c'est la folie, qu'il y a 36 parties, qu'on va dans tous les sens. Eh bien, moi aussi, en tant que Libanaise, je ne cherchais plus à dire « c'est celui-là qui a commencé le premier, c'est celui-là qui est responsable », mais je voyais les gens, les êtres humains et tous ceux qui vivent cette guerre. Et il y a une chose qui m'a presque choquée dans cette émission depuis le début, c'est que les 3 reportages que j'ai vus sur le Liban auraient pu être tout simplement des documents pris il y a 5 ans. Je crois que les personnes qui ont été au Liban n'ont pas regardé, ont continué à regarder la guerre d'une manière traditionnelle, c'est-à-dire ces canons, ces quelques rues détruites, 3 ou 4 personnes qui ont dit que oui, c'était absurde la guerre, qu'on n'arrivait plus à vivre. Alors que ce qu'il faut regarder, c'est une population entière, 3 millions de personnes qui depuis 7 ans est devenue aujourd'hui folle, névrosée, atteinte, vit dans la parano. C'est une guerre où on tire d'immeuble en immeuble.
Tout à fait, franchement, et sans avoir à défendre quoi que ce soit, d'ailleurs, nous ne le ferons pas avec insistance, c'était tout de même le sens des deux premiers reportages, c'était le spectacle de la folie guerrière. Non?
Oui, mais quand on montre, par exemple, dans un premier reportage, on montre l'entraînement, par exemple, des soldats phalangistes chez les chrétiens. Bien, croyez-moi que la population chrétienne, c'est bien plus son opinion et ce qu'elle pense aujourd'hui du Liban, elle est beaucoup plus proche. Ce n'est plus le problème des combattants qui est important. Les combattants sont des mercenaires qui touchent 1500 francs par mois, mais c'est la population qui vit, la population elle, qui est proche de la population progressiste.
Michel, je ne suis pas d'accord du tout, ce ne sont pas des mercenaires, puisqu'il y a un service militaire organisé où tout le monde, tous les hommes doivent passer maintenant dans les forces libanaises. Ce n'était pas du tout justement la réduction des petits gangs et dont parlait Béchir Gemayel, c'est une armée maintenant.
Oui, mais que ce soit de droite ou de gauche, pour moi, ils sont tous mercenaires. Oui. Qu'ils soient à droite ou à gauche, ce n'est pas parce que ce sont ceux de Béchir Gemayel et qui défendent un idéal qui est celui d'un Liban libre, etc. Croyez-moi que de l'autre côté aussi, on souhaiterait vivre dans un État indépendant sans avoir 36 milices et des États qui nous occupent. Et vous montrez aussi à la fin, vous avez montré trois reportages, et un quatrième pris chez les Palestiniens qui est censé être un document de propagande. Or, pour moi, les quatre documents se situent pratiquement au même niveau. Je ne vois pas la différence entre ce document qui est supposé être un document de propagande.
Pour nous, il y a une différence fondamentale. La plupart, je vous arrête. La plupart ont été fabriqués par nous. Celui-là nous a été remis par un état-major.
Oui,
alors, ça me semble la règle de base. Je n'ai pas de jugement sur la valeur de la propagande. Je décris son origine. Et il était important d'en avertir le spectateur.
Comment l'essentiel, ce n'est pas simplement qui a fait.
À notre sentiment,
comment on reçoit l'image.
À notre sentiment, ça n'est pas à nous d'en juger, c'est au spectateur de l'intégrer et de se faire son jugement. Et à ce propos, j'aurais complété l'entretien que nous avons avec vous. Vous considérez-vous, dans le même cas de figure, toutes orientations réservées, naturellement, que Freddy Ethan, c'est-à-dire un journaliste, étant dans un pays qui a ses nécessités de sécurité nationale?
Ah, c'était Kavana. On le coupe un peu brusque, c'est... Mais pour nous, ce qu'on a retenu dans ce bout, il y a plusieurs choses qui se retiennent, mais nous, ça s'appelle enquête de cinéma. Et ce que je trouve qui est assez fort dans ce qu'elle dit, c'est quand il est là à essayer de justifier que ces quatre documents de propagande qui sont équivalents dans ce qu'il donne à voir, ce qui est important, c'est de prendre en compte la question de l'origine, de qui les a faits, et que Jocelyne lui répond en disant « Mais non, mais ce qui est important, c'est ce qu'on y voit, quoi. » Et que dans ce que vous proposez, dans ce qu'on y voit, ben, celui qui regarde, il n'a aucune place. Et c'est vraiment un propos très fort de cinéaste, quoi, que je trouve, et qu'elle parle de ces reportages et ces documentaires qu'elle a fait vraiment d'un point de vue d'une cinéaste, quoi. Donc dès le départ, en fait, elle est déjà cinéaste tout en faisant ses reportages. Elle les fait avec un geste de cinéma, quoi.
Oui, en fait, ce qui est intéressant avec la carrière de Jocelyne, c'est qu'en fait, elle a commencé avec la télévision. Elle a fait des reportages qui sont très, très codifiés pour la télévision, qui ont été très... c'était de la commande. Quand elle couvrait la guerre d'Octobre, par exemple, ou quand elle couvrait la guerre des Irakiens contre les Kurdes, elle n'avait pas de point de vue à adopter. Elle avait rien à apporter concrètement sans risquer d'avoir des problèmes. Et c'est parce qu'elle a eu des problèmes, d'ailleurs, en faisant un film qui a été censuré sur les femmes palestiniennes résistantes à la frontière de la Syrie au Liban, qu'elle a décidé de prendre son indépendance et de faire ses films toute seule. Et en fait, les premiers films qu'elle fait au Liban, elle les fait à son propre compte, donc sans la télévision, avec l'idée que c'était ses images à elle, que c'était son discours à elle, et que c'était du coup ce qu'elle voulait montrer, et avec la façon qu'elle avait choisi de les montrer. C'est-à-dire que très rapidement, elle s'échappe complètement des formes classiques de documentaire pour aller vers des choses qui sont beaucoup plus poétiques, qui sont beaucoup plus personnelles aussi, et qui sont vraiment le travail d'un individu impliqué. C'est Beyrouth, c'est sa ville, c'est son enfance. Elle filme tout ce qui disparaît. Elle s'attache à des petits détails que finalement un journaliste de télévision aurait laissé passer sans même les voir, parce que c'est pas de l'information pure. Jocelyne sort de l'information pour aller vers quelque chose de beaucoup plus sensible, en fait, très rapidement. Et elle a pu faire ça aussi parce qu'elle a décidé de prendre son indépendance, qui était quand même très courageux, parce qu'on lui proposait, alors qu'elle était très jeune, un poste de reporter de guerre à l'étranger. C'est quand même... c'est important. Enfin, et elle était prête à partir au Vietnam, elle est prête à suivre une carrière classique, mais son engagement politique l'a rattrapée. Et effectivement, faire des images, c'est s'engager aussi, clairement. Et ça, elle l'a compris tout de suite.
Wahib ?
Bah oui, c'est l'extrait qu'on vient d'entendre montre bien la difficulté d'être en même temps reporter de guerre, journaliste, et pour documenter l'histoire, comment traverser donc, ces 1000 chemins escarpés pour passer d'un champ à un autre, du champ du reportage au champ documentaire où la place justement du cinéaste doit s'exprimer. Et elle raconte justement tout cet itinéraire dans ce témoignage que vous avez fait avec Nicole Behrens, justement, Mathilde, qui a... Nicole Behrens, je rappelle que c'est la doctorante qui dirige ta thèse en doctorat. Tu vas passer bientôt, j'espère brillamment, parce que ça mérite, depuis un certain nombre d'années, depuis 2013, que tu débarques au Liban, au risque et péril, et reconnaissance immédiate de Jocelyne Saab, qui reconnaît en toi une forme d'engagement. Elle parle d'abord de sa fuite en Égypte avec ses premiers avertissements, des coupes, des diffamations, des refus de diffusion, des destructions de caméras après son retour pour tourner ses reportages avec des phalangistes libanais. Et puis l'agression directe qui l'obligeait, elle dit, à choisir un camp, alors même que j'étais prête à écouter tout le monde. Je me suis donc engagé un temps. Et le 13 avril 1975, donc à son retour à Beyrouth, où a lieu le premier massacre des Palestiniens, 27 passagers assassinés dans un bus détourné. C'est le déclenchement direct de la guerre civile, bien avant 1976. Donc, c'est cette traversée qu'on aimerait entendre de ton propre témoignage, Mathilde, puisque tu as vécu auprès de Jocelyne Saab, qui est maintenant décédée depuis le 7 janvier 1919, l'année dernière. Et vous qui l'avez, qui l'a côtoyé dans ses derniers moments durs et pénibles, dans son lit de mort. Et qu'est-ce que tu as pu lire à travers ce témoignage, à travers ce qu'elle t'a témoigné et cette lourde charge qu'elle t'a communiquée finalement, puisque tu viens t'installer à Marseille, tu comptes porter cette lourde charge avec l'association que vous avez créée, les Amis de Jocelyne Saab, à Marseille, et tous les chantiers à venir pour la restauration de tout ce patrimoine documentaire et de fiction qu'elle vous a légué à toi et à son fils.
Jocelyne a toujours été très, très, très engagée dans tout ce qu'elle faisait. Et quand je l'ai rencontrée, elle était en train de monter un festival de films d'Asie, dans un pays comme le Liban où on ne voit jamais de films d'Asie. C'était déjà en soi très engagé. Et elle a essayé de montrer des films qui discutent cette guerre qui a déchiré le Liban, comme si elle n'arrivait plus à trouver les moyens de discuter avec les gens qui l'entouraient et à trouver l'identité à travers toute la douleur de tout le peuple libanais qu'il a pu subir depuis 1975. Et on voit bien que dans toute sa trajectoire, en fait, pour elle, le cinéma, c'est une manière de non seulement de s'exprimer, mais aussi de pouvoir communiquer. Et je pense que quand elle est arrivée en 1975... Quand elle est arrivée à Beyrouth en avril, elle était prête à partir au Vietnam pour couvrir la libération du Vietnam, en fait. Et elle a décidé de changer de plan au moment où elle s'est rendue compte que là, non, il y a une priorité, c'est mon pays s'effondre, il faut que je filme ça. Et c'est la première personne, la première cinéaste, mais aussi la première personne à avoir créé quelque chose de vraiment... un témoignage aussi fort que le Liban dans la tourmente sur toutes ces milices qui se constituent.
En 1975.
En 1975, oui. Juste au début de la guerre, elle va voir tout le monde, effectivement. Elle a toujours voulu parler avec tout le monde, Jocelyne. Elle n'a jamais voulu faire un cinéma de propagande. Sa façon de s'engager est très... est très à l'écoute de tout le monde, comme pour pouvoir mieux discréditer finalement les arguments des uns et des autres. Il se discrédite tout seul en fait, en montrant la réalité des choses. On voit effectivement qu'elle est, elle penche d'un côté ou un autre, mais l'humanité de Jocelyne qui l'a fait s'engager. C'est pas des slogans, c'est pas parce que c'est à travers ses images et à travers ce qu'elle fait dire à ses images qu'elle arrive à communiquer. Et c'est pour ça que je pense qu'on est encore aussi sensible à ça aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui a traversé tout son travail, et sa carrière est très intéressante à ce niveau, parce qu'on voit qu'elle a eu des moments de doute où elle s'est dit, bon, le documentaire, j'ai tout essayé, j'ai fait une forme classique. J'ai essayé de quitter la forme classique pour revenir à un montage beaucoup plus éclaté, un montage beaucoup plus personnel aussi, avec des petits détails qui moi, me touchent en tant qu'humain, en tant qu'individu, en tant que cinéaste, qu'artiste, en fait. Et elle essaye d'associer ça à de la poésie, des mots qui ne sont pas les siens, mais qui sont ceux de poètes, enfin de Etel Adnan, avec qui elle a beaucoup travaillé, qui est une poétesse libanaise qui a beaucoup écrit aussi pendant la guerre sur la guerre et qui a fait des textes magnifiques et qui a accompagné Jocelyne sur deux films, sur Beyrouth jamais plus et Lettres de Beyrouth. Et elle a travaillé avec Roger Assaf aussi, qui est dramaturge, qui est aussi un maître des mots. Et cet aller-retour a été fructueux pendant longtemps, jusqu'au moment où finalement l'image documentaire semblait être pour elle à nouveau inaccessible.
Mais elle a toujours quand même cru dans l'image.
Elle l'a toujours cru dans l'image, mais je pense qu'il lui a fallu elle-même se réinventer avec l'image tout le temps. Et on voit des grandes différences entre ses tout premiers reportages où elle est beaucoup plus terre à terre et où on voit beaucoup de visages, on laisse la parole aux gens, elle veut discuter avec les dirigeants aussi pour comprendre, elle discute avec tout le monde, etc. Et on se déplace vers des formes de plus en plus surréalistes. Et quand elle part en Égypte en 77, au moment où la guerre au Liban commence à... non seulement assez soufflé, mais en plus les partis progressistes qu'elle défendait, elle, semblaient un peu perdus. Elle quitte le Liban pour essayer de retrouver dans l'image d'autres formes de combat, et elle filme des choses qui sont quasiment surréalistes. Elle traverse les espaces, elle traverse cette cité des morts du Caire qui est peuplée d'individus complètement fantasques, et elle filme cette fantaisie-là parce que c'est ça qui l'intéresse. Elle va dans le désert marocain et elle filme le désert, mais de façon absolument incroyable pour quelqu'un qui connaît pas le désert. Il y a pas de désert au Liban. Et toutes ces façons-là sont d'autres manières de résister, comme si, bon, on a compris que la propagande, ça marche pas, les slogans, ça marche pas, là, on a perdu la guerre, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de comprendre mieux, on va essayer de comprendre le combat des gens par leurs yeux à eux, par la façon dont ils pensent leur espace, dont ils vivent leur espace.
Donc c'est une grande place qu'elle accorde de plus en plus à la question du poétique. Alors finalement, comme si elle, d'une certaine manière, elle quittait le politique dans ce qu'il a de rationnel, dans sa tentative de comprendre et de transformer le monde, et elle va vers la question du poétique, dans sa capacité qu'il a de ressentir les choses, les gens, et d'aller ailleurs, quoi. Il y a un peu ce trajet.
Complètement, complètement. Et en se détachant de plus en plus du langage aussi, qui peut-être semblait un peu trop didactique au bout d'un moment. Personnellement, j'ai l'impression qu'à travers son cinéma... si la poésie avait été toujours très très présente dans la façon dont elle faisait ses images aussi, elle a de plus en plus compté sur uniquement ses images pour essayer de dire des choses, et de moins en moins l'information brute, au sens elle a toujours des chiffres, elle a toujours des informations très claires parce qu'elle est journaliste aussi et qu'elle veut dénoncer aussi, mais ses images sont là pour faire le contrepoids et montrer qu'il y a de la vie, il y a du vivant, il y a des gens qui sont là, ces gens, ce sont des individus, et c'est leur vie compte aussi. Et c'est vraiment ça qu'on saisit dans son cinéma à partir de 76, quand elle commence à faire ses propres films, c'est que c'est la vie qui compte avant tout, et il faut prendre soin des individus.
C'est dans Beyrouth que ça commence, alors Beyrouth, comment ça s'appelle ?
Beyrouth jamais plus.
Ouais, c'est un peu à ce moment-là que ça commence, rêve, tu dis.
Ouais, ou même Les Enfants de la Guerre, qui est peut-être le premier reportage qui a vraiment choqué. Il a choqué, ce reportage, parce qu'en fait, c'est il a eu lieu juste après un massacre qui s'est passé dans les banlieues de Beyrouth, des banlieues mixtes, mais du côté plutôt dominé par les populations chrétiennes de la ville, donc qui a été perpétré par des milices d'extrême droite chrétienne contre des populations majoritairement musulmanes. Et évidemment, les journalistes se sont précipités pour filmer le massacre. Et Jocelyne, elle a préféré revenir le lendemain et le surlendemain et une semaine après pour essayer de construire avec les enfants rescapés du massacre un film pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et elle les voit, elle les filme en train de reproduire la guerre eux-mêmes et en train de se faire embarquer par des milices qui en font des petits-enfants soldats finalement. Et elle filme ça avec une telle sincérité et une telle vérité que ce film est un scandale incroyable pour les forces phalangistes et elle est menacée de mort tout de suite et ça c'est pas uniquement parce qu'elle donne l'information de la quarantaine, du massacre parce que le massacre avait été très documenté mais elle a une façon de saisir ce qui est injuste en fait, c'est-à-dire l'injustice de la vie de ces gamins qui se retrouvent orphelins, l'injustice de persécuter un certain type de population sous des prétextes qui sont inexistants parce qu'en fait ces gens-là n'avaient rien fait, ils étaient réfugiés.
Ouais, donc on la menace de mort due à ses propos poétiques alors.
Exactement, ouais.
D'accord, ouais. Ah bah, parce que c'est le film qu'elle fait juste avant Beyrouth, Jamais Plus. Et là, dans ce que tu viens de nous raconter, je trouve c'est intéressant d'écouter un extrait de Beyrouth, ma ville, par rapport à cette question, parce que quand on dit qu'elle quitte le langage, c'est pour moi, c'est elle quitte la parole documentaire, mais il reste toujours le langage, mais qui est un langage très, très écrit, qui est une sorte de voix off, qui est souvent très poétique et qui à la fois parle de choses qu'on voit, mais toujours avec une mise en abîme et une mise à distance des choses et avec une perpétuelle interrogation, quoi. Donc là, on vous passe un petit extrait de Beyrouth, ma ville, qui a été réalisé en...
82.
C'est ça, 82, avec un peu de musique.
Il y avait un fou dans la ville, Abou Riche. Jolie fleur vénéneuse dans une ville malade atteinte de gangrène. Quand il a été filmé, on ne savait pas encore que c'était un espion, un militaire israélien déguisé. On ne savait pas non plus ce que Beyrouth cachait, et que ni lui d'ailleurs, ni ceux qui l'y avaient mis ne savaient encore. L'homme croit toujours à ce qu'il voit, et ce qu'il voit n'a pas fini de le tromper. Le fou n'était pas fou, et la ville n'était pas ce qu'elle paraissait être. Beyrouth, cité bordel, cité putain, cité marâtre, c'était comme ça qu'on la percevait avant, c'était comme ça qu'on en parlait. La finance, l'espionnage, la modernité agressive et destructrice, la vénalité politique la plus effrontée, le supermarché des trafics et des trahisons, c'était tout cela, Beyrouth. Apparemment. Que n'a-t-il pas fallu pour que l'image se retourne, pour que le trompe-l'œil s'effrite et que la réalité de la pierre se mette à parler?
Je voulais simplement, après cet extrait, rappeler que Stéphane Moreau, qui a beaucoup participé avec nous pour la préparation de cette émission, Mathilde, il nous avait écrit un mot, nous disant ce qui suit, ce qui m'intéresse le plus, les Jocelyne Saab, c'est sa lutte pour la survie contre la maladie de la mort. Parfois, il n'y a plus aucune transcendance. Ce qu'elle exprime, c'est l'anéantissement total, la honte de vivre. La honte de vivre une conscience fatiguée à l'extrême. Et j'ai été voir ce qu'a écrit aussi un critique de cinéma libanais, Samir Nasri, qui dit ceci. La guerre a de multiples visages, mais l'une de ses caractéristiques fondamentales, c'est le pillage et le vol. Au Liban, on s'entretue à 11h du matin, à 7h du soir, de 11h du matin à 7h du soir, parce que de 7h à 10h le matin, les gens au Liban font leurs courses. Il existe un accord entre phalangistes et palestiniens qui utilisent des drapeaux blancs pour permettre la circulation des camions d'objets pillés, remplis par les uns et par les autres. Il est donc possible d'organiser une guerre. Et il dit ça à propos du, aussi également du film Le Faussaire de Volkner, Schlondorf, dans lequel Jocelyne Saab était assistante de réalisation. Il dit que ce film Le Faussaire, il a très bien été vendu en Allemagne, et le roman dont il a été inspiré dit que la gauche est blanche et que la droite est noire. Et en dépit de cette vision de l'absurde et de l'enfer que décrit le film de fiction de Volker, après avoir travaillé avec sa femme et une scénariste, cela a débouché sur un scénario susceptible de plaire aux gens de gauche, mais d'agresser la susceptibilité de ceux de droite. Où je veux en venir, c'est que les personnages sont fortement réactionnaires, ils sont de droite, et les nonnes vendent des enfants à adopter. Schlondorf a eu le coup de foudre pour ce pays fou, sans feu rouge, dans la rue. La loi des obus qui tombe fait sa loi, tandis que 500 mètres plus loin, les gens vivent intensément. Et le commerce continue. Et même 30 salles de cinéma se sont ouvertes entre 79 et 80. Bizarre tout ça. Mais il s'est rendu compte qu'il s'était très vite qu'il avait fait un film qui n'était pas vrai et que finalement le falsificateur c'était lui. J'ai trouvé ça, cette description en même temps de Beyrouth, ce qui se passe, ce climat de guerre et ce que nous décrit Samir Nasri au sujet de cette ville et ce qui s'y passe. Comme une sorte de mise en scène de la guerre que justement Jocelyne Saab a fini par se lasser. Elle s'est lassée de cette guerre, elle s'est lassée de filmer la guerre pour s'échapper plus tard vers autre chose en reproduisant pas en reproduisant ce qu'a fait Volker, mais en allant plutôt vers des sujets beaucoup plus intime et beaucoup plus en creusant beaucoup plus dans la chair de cette société qui est la sienne. Mathilde, toi qui as donc traversé toute la filmographie de Jocelyne, comment tu vois ce passage donc à travers ce qui est dit, à travers ce qu'elle a montré de la guerre et ce qu'elle montre, ce qu'elle donne à voir plus tard dans ces films de fiction? Est-ce que tu peux nous en parler, nous en dire un peu plus?
Oui, je pense que la rupture est claire, et elle le dit elle-même très facilement. Elle a commencé à écrire son film de fiction, Une vie suspendue, très tôt, c'est-à-dire qu'au moment où elle rencontre Volker Schlondorf et qu'elle se retrouve sur le tournage du film en troisième ou quatrième assistante, elle était fixeuse aussi pour le film. Elle était déjà dans une vraie envie de fiction. Elle avait vraiment des envies de cinéma qui débordaient complètement ce qu'elle était capable de faire en documentaire et ce qu'elle avait les moyens de faire finalement avec le documentaire. Mais je pense que ce qui a fait tout basculer pour elle, c'est l'effondrement total d'une possibilité de s'engager par le documentaire après 82 au Liban. Après le départ des Palestiniens, après l'incendie de sa maison qui a brûlé, et après ce qu'elle appellera la perte de l'identité de tous les Libanais, de son identité à elle aussi. Une espèce de flou comme ça qui s'est installé pour elle, qui s'est installé pour toute cette gauche militante de l'époque au Liban, qui a fait que finalement, que dire de ce, qu'est-ce qu'on peut raconter de cette guerre-là, puisqu'on a plus, puisque toutes nos idéologies, elles sont parties sur le bateau de l'Atlantis en Grèce, puis à Tunis, que les Palestiniens sont partis, qu'on est là et qu'on continue à se battre et qu'on sait même plus pourquoi. Et finalement, est-ce qu'on n'a jamais su pourquoi on se bat, et il y a juste c'est cette souffrance de ces gens qui se retrouvent déplacés parce que le territoire est occupé, etc. Et je pense que pour elle, il n'y avait plus de possibilité de parler du Liban autrement que par la fiction. Et c'est cette fiction-là et cette possibilité de fiction qui a fait qu'elle a réussi à continuer à faire des images, et du coup elle a recréé avec des personnages qui l'entouraient, parce que finalement c'est des, les personnages d'Une vie suspendue sont des gens qu'elle avait connus aussi un peu. Elles sont inspirées de gens qu'elle connaissait. Elle a écrit le film avec des gens qui vivaient avec elle, et elle voulait parler de ce problème des réfugiés, mais sans parler du problème des réfugiés, en parlant de poésie, en parlant d'amour, en parlant de possibilité de continuer à rêver, même malgré la guerre, malgré tout ça. Et après ce film-là, elle a quitté le Liban, elle s'est installée à Paris, parce que c'était trop difficile de faire face à tout ça.
Mais est-ce que c'est pour toi donc la question de la fiction, c'est comment elle peut encore continuer à parler du Liban, et donc elle fait le choix de changer de forme. Mais t'as aussi en parallèle de ça qui est lié à ça, mais c'est aussi, moi je ressens que de plus en plus elle a eu besoin de parler de choses qui lui étaient intimes, quoi, comme si d'abord elle était dans quelque chose de plutôt sociologique entre guillemets, puis après les autres, qu'est-ce qui va être de plus en plus les autres, ça a été de plus en plus elle, et puis elle, ça a été de plus en plus aussi quelque chose qui était de l'ordre de son intime, quoi, de sentiments. Parce que ce film, cette première fiction dont le titre est
Une vie suspendue,
c'est aussi une histoire d'amour très forte. Ça parle d'amour, quoi, de quelque chose. Et je sais pas, moi je voyais beaucoup Jocelyne dans cette histoire d'amour, à ma manière, quoi.
Oui, ça parle d'amour, ça parle aussi de liberté bafouée, parce que cette jeune fille, elle estimait par ses parents être trop jeune pour pouvoir vivre ce qu'elle a vécu. L'un des grands enjeux du film, c'est est-ce qu'on doit recoudre l'hymen de cette jeune femme qui n'est plus vierge ou pas. Et ça c'est comment on peut racheter son innocence, comment on peut essayer de reconstruire aussi son identité face à une famille qui nous nie un peu. Et c'est un peu aussi la vie de Jocelyne, tout ça. Elle s'est retrouvée libanaise, maronite, d'une famille chrétienne dont le frère s'est engagé dans les milices de droite pro-palestinienne. Il y a eu une rupture entre Jocelyne qui est restée à l'ouest pendant le siège de Beyrouth contre les Israéliens, etc., et le reste de sa famille qui s'en est protégée et qui est restée très proche des milices chrétiennes, en fait. Et cette rupture-là, je pense que c'est ce qu'elle a voulu montrer avec ce film aussi, parce qu'elle s'est trouvée complètement déchirée dans cette guerre-là. Elle a complètement perdu ses repères, et elle est comme cette jeune fille qui se retrouve déracinée du sud du Liban à arriver à Beyrouth, à essayer de vivre de poésie et de fantaisie au quotidien, parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain. Et je pense que ça, c'est le sentiment que Jocelyne avait... alors qu'elle approchait de ses 40 ans et qu'elle était enceinte sur le tournage du film. Et je pense qu'il y a tout un vertige aussi par rapport à tout ça qui fait que le film est très très fort. Et dans toute sa naïveté, parce qu'il est aussi très naïf, c'est un premier film, il est très touchant, parce qu'on voit effectivement, c'est la souffrance d'une femme dans une société qui n'est pas quand même facile à appréhender, et sur laquelle en plus les bombes tombent tous les jours, quoi. Je pense qu'effectivement, il y a quelque chose de très personnel et du coup aussi de très intemporel par rapport à tout ça. Le film est encore très beau aujourd'hui.
Oui, très beau. Puis elle a cette façon de filmer la ville, quoi, que ça soit en documentaire ou que ça soit en fiction. C'est les plans ou les cadres qui font. C'est même plus une question de documentaire ou de fiction à cet endroit-là, quoi. C'est la couleur, les lumières, elle la connaît, elle la ressent, cette ville, elle la vit. C'est quelque chose qui est très beau, quoi. Je vous propose, pour revenir un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, parce que moi j'aimerais bien rebondir un peu et revenir sur la question de la guerre, de ces reportages, ces documentaires, de ces questions aussi qu'il y a eu beaucoup de censure dans ce travail qu'elle a fait, parce que pouvoir proposer des formes comme ça à la télé, c'est complètement inimaginable à notre époque, et j'imagine que déjà à son époque, ça, au vu de ce que j'ai lu, ça a été un combat aussi et quelque chose de dur. Je voulais faire écouter un petit mot, toujours une voix off, je sais plus c'est de quoi, oui, c'est toi qui l'as choisi celui-là, les mots pour dire la guerre.
Les mots pour dire, je pense que c'est dans plus jamais. Beyrouth, plus jamais.
Beyrouth, jamais plus. On va voir.
On va voir. Allez, on découvre ça en même temps que vous. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
qu'il est long le chemin qui sépare ce qui est éprouvé de ce qui est dit et ce qui est dit de ce qui est perçu les mots peinent s'essoufflent L'indicible est plus fort. Quand le malheur devient spectacle, on l'a déjà trompé. On est déjà touriste au pays des souffrances. La mesure de la compassion n'est pas celle de la douleur. Et devant les décombres d'un immeuble bombardé, une distance indéfinissable sépare celui qui est ému à cause de ce qu'il voit de celui qui pleure à cause de ce qu'il ne voit plus.
C'est très fort ce qui est dit. Elle s'est construite, cette voix off, c'est qui l'a écrit ?
C'est Roger Assaf. Voilà, un dramaturge qui écrivait beaucoup de pièces de théâtre et qui faisait jouer beaucoup de pièces de théâtre pendant la guerre et qui a écrit un texte absolument magnifique pour ce film. Cet extrait est incroyable. Cet extrait, c'est tout le cinéma aussi, effectivement. Justement, nous, on est là et on voit ce qui est, en fait. On ne voit pas ce qui n'est plus. On est là dans cette position de voyeur tout le temps et on voit le cinéaste en position de voyeur aussi qui s'en veut. De faire partie de ceux qui peuvent voir ce qu'il y a plus et en même temps il faut montrer sinon ça n'existe pas en fait justement et c'est toute cette dialectique là qui est passionnante particulièrement dans son travail documentaire qui est terrible parce qu'elle montre ce qui disparaît et c'est difficile de montrer ce qui disparaît et c'est très très fort c'est vraiment c'est quelque chose qu'après travaille toute la vie je pense qu'elle est restée avec cette force d'avoir survécu à cette guerre-là et en même temps cette douleur d'avoir passé des années à voir les choses disparaître et à essayer de les garder, de les conserver, de les capter par l'image.
De reconstruire des choses par l'image. Quoi. Ouais. De reconstruire une histoire, une mémoire, de garder les traces, une fonction première du cinéma aussi.
Complètement. Je pense que pour elle, ce qui l'a poussée à descendre dans la rue justement à ses horaires... de liberté entre 7h et 10h du matin quand les milices ne se battaient pas, c'était aussi d'essayer d'avoir la possibilité de garder des traces de cette ville-là. Et c'est une ville qui a complètement disparu, c'est une ville qu'elle montre dans un de ses derniers films aussi de fiction, et What's Going On, où on voit que oui, alors effectivement, la ville a été reconstruite. Mais c'est quoi cette ville ? C'est plus sa ville, c'est pas ce qu'on connaît, c'est pas ce qu'elle connaît. Ça fonctionne plus, on peut plus l'attraper, elle est devenue impersonnelle, et alors que dans tous ses films, les films qu'elle a réalisés pendant la guerre, elle connaît ses quartiers par cœur. Beyrouth West, c'est sa ville en fait, c'est une ville mixte, c'est une ville vivante, c'est une ville où les gens, même s'il y a des bombes qui tombent, ils vont aller arroser leurs plantes parce que je vois pas pourquoi, parce qu'il y a des gravats, mon petit palmier il pourrait pas survivre, et on va quand même jouer aux osselets parce que pourquoi on jouerait pas, de toute façon ça fait 10 ans que c'est comme ça, on va pas non plus s'arrêter de vivre, et elle va voir ces gens-là qui vont lui rappeler que non mais t'inquiète, on vit. Ouais,
ça fait penser au film très très beau de Kiarostami et la vie continue quoi.
Exactement, exactement.
Il y a un tremblement de terre, il y a eu plein de morts, bon ouais mais il y a un match de foot.
Ouais, c'est ça, ouais, exactement.
C'est que la vie est continue et plus forte, doit continuer.
Et malgré tout, malgré les déplacements, parce qu'elle filme l'horreur des déplacements de population, la détresse des Palestiniens, la détresse des gens qui ont perdu de la famille, qui n'ont plus de maison, elle va filmer. Elle fait aussi ce trajet-là que font tous les cinéastes à l'époque aussi, de montrer vraiment ce qui disparaît au sens propre du terme, c'est-à-dire que voilà, on perd, ça nous échappe, ça Il n'y a plus ce qui nous fait vivre aussi, mais du coup, elle cherche à montrer qu'on peut se reconstruire autrement, et c'est ces images qui permettent ça aussi, parce qu'elle attrape vraiment ce qui peut faire l'avenir, toujours. Elle est là, elle filme des vieilles personnes qui sont là et qui disent « Bon, nous, on est tristes, mais c'est pas grave, on veut rester là, on veut lutter, on veut s'engager, on veut résister. » Elle est là pour filmer une vie qui... comme les petites plantes qui percent dans le béton et qui vont quand même vivre. Et que elle filme ces petites plantes qui percent dans le béton. Elle filme les marchés qui se montent comme ça à l'improviste parce que non, mais là, nous, j'ai trop de pain. On va en donner à la communauté. On va improviser à quelque chose. Et ok, on est sous le siège, mais là, on a réussi à avoir quelque chose. On va le montrer. Et c'est, ça, c'est très très précieux parce que c'est très rare. C'est des archives qu'on trouve pas dans, notamment la télévision française, effectivement, où, qui était très enfin, qui montrait la guerre du Liban comme une série de drames. On aimait bien voir Beyrouth ensanglantée, Beyrouth déchirée, Beyrouth hargneuse, belliqueuse, violente, avec des chiffres aussi qui sont très... qui déshumanisent complètement la situation. Et Jocelyne, elle s'en fout de savoir, ok, là, il y a eu un bombardement. Moi, je vais voir les gens qui sont là, je m'en fous de savoir si c'est les Syriens, si c'est X, Y, telle armée, une autre. On n'est plus dans ces considérations-là. De toute façon, on ne comprend rien de ce qui se passe. On ne sait pas à qui appartient cette guerre. On ne sait pas pourquoi il y a cette guerre. Moi, je vais filmer les civils qui ne comprennent pas pourquoi il y a cette guerre. Parce que moi, je ne comprends pas. Et moi, je suis une civile, moi, je suis libanaise. Et c'est, voilà, c'est... je veux garder des traces. Et c'est très très beau parce que c'est très spontané. Il n'y a pas de discours derrière ça. Le discours de Jocelyne à cette époque-là, il est très politique. Il n'est pas très artistique. Et ça, je trouve ça très très fort parce que elle n'est pas là pour essayer de créer du. Elle n'est pas là pour faire de l'art. Elle est là parce que faire de l'art, c'est la seule manière qu'elle a de réussir à communiquer ce qu'elle veut dire. Et c'est très beau. C'est son posture. Quelque chose que je trouve très fort.
Eh oui, c'est très beau. C'est pour ça qu'au début, on a voulu aussi mettre une musique de Fairouz, parce qu'on se disait que Fairouz, comme Jocelyne, il y avait quelque chose de très beau dans ce qu'elle racontait. Et on va vous proposer de réécouter une musique de Fairouz que Wahib a particulièrement choisie. Pourquoi tu as choisi celle-là ?
Fairouz me fait penser pareil que Jocelyne, une femme engagée pour sa ville, leur ville natale, leur pays, quoi, qui se déchire. Et peu importe, une femme ou un homme, quoi, c'est la nature même, quoi, qui se détruit, mais en même temps qui se régénère face à ce drame qui est la guerre. Et ben écoutons-la, écoutons Fairouz. Fairouz est resté quand même un astre dans la musicologie arabe. Alors. Et pour ce pays, elle a apporté énormément.
في حال
Ceux qui nous rejoignent, c'est Férouz qui chante Beyrouth. J'espère que vous arrivez à suivre un peu dans cette densité. On est sur Radio Galère 88.4 en quête de cinéma avec Wahib Mortada, Mathilde Rousset, et on parle de la cinéaste Jocelyne Saab. Voilà, et on reprend pour la dernière demi-heure. Et moi, j'avais envie, là, pendant la pause, on parlait de ça, quoi, de la question de... Bon, y a deux choses que je voulais... voilà, il y a déjà, elle a fait des interviews, des films sur des fortes personnalités, comme Kadhafi, comme Yasser Arafat, comme d'autres. Et comment ça s'est amené, ou comment ça a été amené, ces choses-là, ces désirs, ou c'est possible?
Parce que Jocelyne était très jeune quand elle a commencé le journalisme, elle devait avoir 23 ans. Et elle avait été envoyée en Libye à l'origine comme traductrice pour un réalisateur qui devait faire un film sur Kadhafi, etc. Et le réalisateur n'a pas pu avoir de visa. Du coup, Jocelyne étant sur place, Kavada, pour qui elle travaillait, lui a demandé « Bon, bah, tu veux pas faire le sujet, nous ça nous arrangerait bien, parce que là c'est compliqué, vraiment on n'arrive pas à avoir le visa pour notre réalisateur. » Et donc c'est Jocelyne qui se charge du sujet. Et elle a avec Kadhafi des informations qu'un journaliste français traditionnel n'a jamais. C'est-à-dire que non seulement le fait qu'elle parle arabe, ça a facilité quand même énormément la communication, mais en plus, le fait qu'elle soit une femme, une jeune femme en plus, a fait qu'elle a réussi à mener la conversation sur des territoires qui sont rarement explorés par les journalistes occidentaux dans ces pays-là. Et très rapidement... C'est-à-dire que, par exemple, Kadhafi, dans le premier film que Jocelyne a fait pour la télévision, il l'a emmené dans sa famille, il lui a montré des choses, il a essayé de créer un lien un peu plus Peut-être que la propagande qu'il avait l'habitude de faire lui a un peu échappé parce que justement Jocelyne était là et qu'en tant que femme, je pense qu'elle n'était pas vraiment prise au sérieux. De la même façon que plus tard, elle a eu des facilités à avoir des accords pour des sujets ou pour des gens avec qui qu'elle allait interroger, qui était aussi un peu dû à ça. C'est-à-dire qu'elle-même le disait, en tant que femme, c'était plus facile parce que de toute façon, moi, on pensait pas que j'étais dangereuse. Donc, on m'accueillait assez facilement, on me racontait un peu tout ce que je voulais parce que de toute façon, oui, j'étais une femme. Donc, Et ça a commencé très tôt. Le début de sa carrière a été sur ça, en fait. C'est sur cette facilité-là qu'elle a eu à capter de l'information, à attraper des choses, des témoignages qui sont finalement très rares. Elle a réussi à se faire une place. Alors que justement, dans un monde arabe, et surtout à une époque, parce que les années 70, c'était comme ça partout, où si on n'avait pas un engagement politique très clair, très radical, on avait du mal à se faire identifier. Jocelyne a toujours rejeté toutes les affiliations politiques, elle a toujours fait un peu à sa sauce, et malgré tout, elle a réussi à convaincre des personnalités incroyables comme Arafat, par exemple, qui n'avait pas confiance en grand monde, mais qui a demandé expressément à Jocelyne de l'accompagner sur le bateau de l'Atlantis quand il a dû quitter le Liban en 82, parce qu'il avait confiance en elle, et c'était la seule journaliste télévision à pouvoir monter sur le bateau, et c'était Jocelyne toute seule avec sa caméra. Alors qu'elle était encore jeune aussi et que voilà, elle travaillait pour la télévision française, c'était et qu'elle n'était pas militante particulièrement, c'était pas une militante vivace, elle était très critique et elle a fait des choses, des films avant pour lesquels les Palestiniens ont trouvé que c'était un peu desservir leur cause parce que c'était pas assez dans la propagande, etc. Et elle a réussi à avoir la confiance de tout le monde en fait. À tel point que parfois elle faisait des choses qui après se retournaient un peu contre elle et ont amené à des censures et à des choses qui, à trop de facilité en amont, ont amené beaucoup de complications en aval aussi, parfois.
Ah ouais, d'accord. Ouais.
Pour ceux qui nous rejoignent pour cette seconde partie de l'émission, j'aimerais bien représenter Mathilde. Et à partir de la date de cet été 2013, où elle va à Beyrouth rencontrer Jocelyne Saab à la fin de sa vie, étendue sur son lit. Et sous le lit, il y a tout ce patrimoine cinématographique qu'elle te dévoile, hein, Mathilde. Après cette rencontre où elle dit des choses sur toi, où tu étais donc parti pour étudier son travail, et elle dit que Mathilde était venue me trouver à Beyrouth durant cet été pour étudier mon travail filmique sous les bombes qui explosaient à tous les coins de rue, et elle n'avait pas l'air de s'en soucier. Donc tu lui ressemblais un petit peu dans sa manière d'aborder un terrain. Pour aller voir la chair humaine plutôt que de voir les décombres autour. Elle dit aussi, Mathilde avait alors à peine 21 ans et elle s'est avérée une précieuse collaboratrice. Mathilde s'est jetée à corps perdu dans mon travail, dans mes images, en quête de ce qu'elle a décelé comme étant ma volonté ténace de reconstruire une mémoire en voie de disparition. Elle était guidée dans sa recherche intérieure par une recherche d'une identité qui justifie sa place et son rôle dans un monde qui se déchire. Elle a su, au-delà de la simple information documentaire qu'elle venait chercher, ce qui m'avait taraudé tout au long de ma carrière, dans ma capture d'image, c'était la recherche d'un pacte narratif établi entre la caméra et le monde réel. C'est d'abord ce contact humain et avec un regard bienveillant. Raconte-nous, s'il te plaît, Mathilde, cette rencontre, ce moment-là, comment tu as trouvé Jocelyne à ce moment-là dans son lit, et comment elle s'est réveillée à toi, comment tu as vécu son histoire personnelle avec elle?
Jocelyne, je l'ai rencontrée à une époque où la possibilité de faire des films était disons qu'après Dounia, qui a été le grand film de sa vie, Jocelyne a subi tellement de censure, tellement de violence, tellement de menaces de mort aussi, qu'au bout d'un moment, elle a essayé de trouver d'autres moyens de s'exprimer, passant par d'autres biais, et notamment par la possibilité de montrer aussi des choses que d'autres ont faites. Et quand je l'ai rencontrée, elle était dans cette démarche d'essayer de faire parler les autres, à défaut de réussir à trouver les mots pour parler elle-même. Elle avait pas vraiment abandonné le cinéma, mais en tout cas, elle prenait un peu de distance par rapport à ça. Et du coup, quand moi, j'ai commencé à appréhender son travail, j'avais en face de moi quelqu'un qui était en train de se saisir du travail des autres et finalement de faire le travail que nous, on fait, hein, en voulant montrer des films. Elle a voulu montrer des images qui, pour elle, lui parlaient, comme si ses propres images, elle n'arrivait plus vraiment à en faire quelque chose de... Et moi, j'ai découvert son travail à ce moment-là, en repartant du début et en redécouvrant ses premières images documentaires. Et finalement, c'est dans cette résonance entre l'humain que j'avais en face de moi, qui est quelqu'un de très dynamique, de très, très vivace, de très tenace, et quand elle a une idée, elle va jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. Voilà. Et avec ceux qui veulent bien la suivre, en fait. C'est très... Et elle a embarqué beaucoup, beaucoup de jeunes comme moi avant et depuis le début, enfin, très, très, dans ses premiers films aussi. Je pense que même dans ses documentaires, elle devait embarquer des gens et pourrait, parce que c'est un engagement qui meut énormément. Et c'est quelque chose qu'on voit dans ses films très vite. Et c'est vrai que l'avoir rencontrée, ça m'a permis de comprendre plus vite, je pense, ce qu'elle avait voulu faire en faisant des images. Et en même temps, ces images sont très très parlantes en soi, et on voit bien que n'importe qui témoigne pour parler de Jocelyne parle de cette vivacité, de cette force, de cette capacité aussi à prendre des risques et à faire prendre des risques aux autres, mais tout en les protégeant, qui fait ce que cette femme est quelqu'un d'impressionnant et dont on se souvient longtemps. Et c'est assez intéressant parce que très récemment, je pense qu'il y a peut-être un mois, Jacques Weber a sorti un ouvrage sur son expérience du tournage du film qu'il a tourné à Beyrouth, donc en fait Une vie suspendue, parce que Une vie suspendue, Jocelyne a embauché Jacques Weber et Juliette Berthaud pour son film. Et Jacques Weber raconte dans ce livre l'expérience qu'il a eue avec Jocelyne et parle de cette folie aussi de pouvoir se projeter en avant avec les gens et d'essayer de dépasser non seulement ses limites, mais aussi les limites de ceux qui l'entourent. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est un don que Jocelyne a fait à beaucoup de monde, qui est d'apprendre à un peu dépasser ses limites. Et c'est quelque chose qui traverse tout son cinéma et qui traverse complètement ses images. On voit bien que même quand elle a voulu faire de la fiction, même quand elle n'avait pas de budget pour faire ce qu'elle voulait faire, elle les a faites à sa façon. Et c'est sa façon à elle de faire les choses est toujours très, très, très poétique. Donc c'est quelqu'un qui s'est toujours accommodée de ce qu'elle pouvait réussir à avoir finalement, et qui en même temps livrait beaucoup plus que ce que quelqu'un qui aurait suivi le trajet standard aurait pu offrir. Et ça, je pense que c'est valable sur l'intégralité de sa carrière, qui pourtant est très très variée, parce que 50 ans de création, ça oblige forcément à se redéfinir, à se reconstruire et à proposer de nouvelles manières de faire les choses.
Ça me donne envie de vous faire écouter un petit extrait de Beyrouth, ma ville, si je me trompe pas, parce que j'ai trouvé, alors peut-être que je me trompe, tu vas me dire, mais j'ai trouvé ce début du film magnifique, c'est-à-dire que c'est celui où on commence dans la maison de Jocelyne. Jocelyne tient un micro, elle est filmée dans une maison qui est sa maison, et je vous fais écouter ce début de son.
Voilà, c'est ma maison, c'est ce qu'il en reste. Et je peux plus vous parler des autres. C'est cynique, mais... Voilà, là c'était ma chambre. Là nous préparions un film. C'était deux étages. Au fond, c'est pas grave parce que ce n'est que des murs après tout. Et nous sommes tous sortis vivants. À penser au le nombre de morts qu'il y a depuis quelques jours. D'une part à cause des bombardements des Israéliens, à cause des bagarres intérieures. Je sais pas, on se demande, je me pose des questions. L'essentiel, c'est de survivre, de vivre. C'est vrai que cette maison, c'est la tradition, que ça me fait quelque chose au cœur, que c'est 150 ans d'histoire. C'est mon identité aussi. C'est comme pour tout le monde, c'est l'identité de tous les Libanais qui perdent leur maison, leurs biens. En plus, comme on ne sait pas à qui se référer, on ne sait plus qui on est.
Alors Mathilde, qu'est-ce que c'est que pour toi ce début de film ?
Je pense que c'est ce qu'ont vécu tous les Libanais, justement, comme a dit Jocelyne, c'est la guerre. Et c'est cette difficulté aussi à parler de... C'est à la fois cette nécessité de parler de soi pour pouvoir donner de la crédibilité aux choses qu'on dit, et en même temps la difficulté de parler pour les autres. Je sais que Jocelyne a été un peu poussée par les gens qui l'entouraient, etc., pour faire ce petit moment de film. Et elle sentait pas qu'elle avait le droit de le faire, parce que bon, ok, son palais, le palais dans lequel elle a grandi, a brûlé, mais il y a des gens qui ont tout perdu, il y a des gens qui ont perdu leur famille, les bombardements étaient terribles, et elle sentait la nécessité de le faire, parce que il faut que les gens comprennent que c'est des gens qui meurent. C'est pas des chiffres, c'est pas. Et si moi je montre que mon univers à moi, que les gens connaissent un peu, parce que voilà, elle a plusieurs films auparavant où elle se montre, où on la voit dans Lettres de Beyrouth, elle est presque un personnage de son film. Elle est filmée en train d'agir, de descendre dans le sud du Liban. On la voit, on la connaît, Jocelyne, quand on regarde la télé régulièrement. Et elle passait aux heures de grande écoute à la télévision. C'était une journaliste qui était attendue. Et de voir cette femme qu'on connaît un peu, puisqu'on la voit, qu'elle est un personnage public, perdre aussi et subir aussi la guerre et pas seulement en donner de l'information, je pense que ça l'obligeait à accepter en fait de parler en tant que Libanaise. Et donc, en parlant en tant que Libanaise, elle parlait à tous les Libanais aussi qui étaient au Liban, qui étaient hors du Liban, et c'était cette capacité à dire aussi. On est en train de perdre notre identité. Cette guerre, c'est terrible. Ce qui se passe, c'est terrible. Vous comprenez que c'est pas normal. Et je pense que ce cri-là, il a parlé à beaucoup, beaucoup de monde. Et c'était un peu... c'était pour la télévision française, c'était un peu lourd à porter, ça, un témoignage comme ça, parce que c'était non seulement à l'encontre de toute l'idéologie de la télévision française de l'époque, qui était quand même... qui n'était pas neutre politiquement dans la guerre du Liban non plus. Et avant de passer ce film, c'est Cavada à nouveau qui le montre dans son émission les mercredis de l'histoire, et il fait un petit avertissement en disant à l'avance, oui, alors c'est pas nous on pense pas ça, c'est vous avez le témoignage très 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 subjectif de quelqu'un sur place, il faut le prendre comme un témoignage subjectif, voilà. Mais en se dédouanant tout à fait à la fois du contenu, du témoignage de Jocelyne et de la forme que Jocelyne a choisi de donner à son film. Et c'est très fort parce que le film est passé, parce que le film offre tellement de puissance et d'informations. Enfin, l'image est tellement forte et ce discours, et c'est dans ce film-là aussi qu'on voit la voix de Roger Assaf et le texte de Roger qui se déploie. C'est un film tellement fort qu'on ne peut pas le... Il a été censuré en partie quand même, hein. Mais on peut pas l'oublier. On doit le montrer, ces images-là, on le sait.
Censuré en France,
ouais. Il y a toute une séquence qui a été coupée où on voit les Palestiniens torturés par les Israéliens. Ça passait pas à la télévision française dans les années 80. Et donc du coup, ça a été censuré. Avec l'accord de Jocelyne, ça passait comme ça ou ça passait pas. Mais le film est quand même passé, et le film est très militant, et cet engagement à la première personne au début du film, ça dit beaucoup, c'est très fort, c'est même presque trop fort, en fait, pour vraiment parler d'information. Mais elle avait ce pouvoir-là, Jocelyne, aussi, de convaincre malgré tout. Elle agaçait beaucoup.
parce que cette arrogance de cette conviction, parfois, c'était... Elle mettait au pied du mur tout le monde un peu aussi. C'est, tu prends comme ça ou tu prends pas. Bon, bah oui, on va le prendre, mais quand même.
Mais c'est tellement fort ce début que tu peux pas ne pas le prendre.
C'est impossible, c'est impossible. Ouais. Parce que c'est trop vrai. Ce serait vraiment empêcher quelqu'un de parler. Là, ce serait vraiment museler quelqu'un. Là, c'est pas comme couper un petit bout de film parce que là, oui, non, dans ton montage. Non, là, ça aurait été vraiment mettre un scotch. Tu peux pas dire ça, c'est pas possible. Et ça, c'est quelque chose de vraiment très puissant. Et juste après ce passage-là, on suit une vieille femme dans les images qui cherche dans les poubelles de quoi se nourrir. Et on voit bien que Jocelyne ne se met pas au niveau de cette femme-là. Jamais de la vie, elle oserait faire ça. Mais je pense qu'elle a conscience que cette femme-là, si elle parle, de toute façon, les gens ils vont pas s'identifier à cette femme-là. Son public va pas s'identifier à les Français qui regardent la télévision à 20h, ils vont pas s'identifier à cette femme-là qui cherche dans les poubelles. Ça, c'est... Oui, c'est une civile, une pauvre civile, une marginale en fait. C'est quelqu'un qui a été marginalisé par la situation. Mais Jocelyne, c'est une journaliste à la télévision française qu'on voit régulièrement sur les plateaux télé, qui parle, qu'on aime bien parce qu'elle a un franc-parler et qu'elle a invité souvent, et elle aussi, elle subit ça. Peut-être que oui, il se passe un truc au Liban qui n'est pas normal, un siège qui était invivable, une ostracisation de toute une population qui est quand même finalement peut-être plus mixte qu'on croyait, parce qu'elle est quand même chrétienne, Jocelyne. Elle a brisé tous les codes et elle a brisé tous les stéréotypes qu'on pouvait avoir sur le Liban avec ses films, Jocelyne. C'était très très fort. Et elle a été haïe, elle a été menacée de mort X fois, elle a été enlevée, tabassée... Et elle a continué à faire des films, elle a continué à dire ce qu'elle pensait jusqu'à la fin. C'était quelqu'un vraiment très courageux. Ouais. Et c'est ce début, c'est tout son courage qui est dans ce début-là. Son courage et en même temps sa défiance par rapport à qu'est-ce qu'on peut dire au nom de qui on parle.
Une forme de pudeur.
Complètement.
Ouais. Mais elle va jusqu'à sa dernière fiction, Dounia.
Sa dernière fiction, c'est What's Going On.
Ah oui, ouais. Oui.
Mais
oui,
Dounia, oui. C'est le summum du.
Qui lui
de
aussi vit des formes de censure.
Oui, et puis des menaces de mort. C'est un film qui n'a pas été soutenu du tout, et c'est un film qui a été traqué, pour lequel elle a été censurée au niveau du scénario, elle a été surveillée pendant le tournage complètement. Il y a ces acteurs qui ont été menacés de mort aussi par les fondamentalistes religieux au Caire. Et après, quand le film a voulu sortir au Caire, le film a été bloqué au Caire parce que les fondamentalistes religieux avaient décidé que c'était un film haram, on pouvait pas montrer ça, c'était n'importe quoi. Et puis, qui sait que c'est cette Libanaise qui parle de l'Égypte. Les Égyptiens sont assez chauvins aussi, donc c'était difficile d'accepter qu'une petite Libanaise en jupe vienne dire des choses comme ça. Et en même temps, même en France, il a été un peu écarté parce que... Et Jocelyne y a vu aussi beaucoup une forme de diplomatie. Non, dans l'Égypte de Moubarak, au début des années 2000, on peut pas non plus dire que c'est aussi rétrograde que ça. Nous, on a des liens. Et elle s'est fait rejeter dans des projections de presse, dans des projections à des diffuseurs, à la télévision. Elle a dû essuyer des critiques comme ça, et ça a été très très difficile pour elle. Parce que ça, c'était quelque chose qu'elle comprenait pas. Elle venait dénoncer quelque chose. Et encore une fois, alors que c'est de la fiction, que c'est un grand film égyptien, qu'il y a de la musique, etc., qu'elle a des grands acteurs, et qu'elle avait tous les ingrédients pour plaire, mais en fait non, parce que malgré tout, son discours est toujours un peu trop à l'avant-garde, en fait, pour les publics qui sont capables de le vendre, en tout cas. Et ça, c'est quelque chose qui l'a bouleversé, parce que son film a été très 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 bien reçu en Asie. Il a fait tous les grands festivals d'Asie. Elle s'est beaucoup rapprochée d'ailleurs de toute l'Asie et tout le. Ça l'amènera à réfléchir à un film qui se passerait au Japon à la fin de sa vie, là, qu'elle n'a pas pu faire. Mais c'était vraiment parce qu'elle avait l'impression d'être comprise. Et que là, on n'était plus dans des jeux politiques entre l'Orient, l'Occident, l'Europe. De non, mais on ne peut pas dire ça comme ça, parce que si on dit ça comme ça, tu sais, ça va faire des problèmes. Et Jocelyne, elle a refusé complètement de se plier à ce genre d'ordre-là. Ça, c'était pas possible. Hein. Ça a été traumatique pour elle. Ça a été vraiment très dur. Ça l'a un peu éloignée du cinéma aussi, cette violence-là, qui se faisait aussi économiquement, parce qu'effectivement, elle avait jamais vraiment... Enfin, les producteurs avec qui elle travaillait avaient beaucoup de mal à comprendre où est-ce qu'elle allait et pourquoi elle voulait provoquer autant. Et donc, du coup, elle avait jamais d'argent pour finir ses films. Alors qu'elle a une carrière incroyable. Elle a fait 47 films dans sa vie, quand même. C'est, C'est que, et malgré tout, toujours ces mêmes difficultés à trouver de l'argent, tout le monde les mêmes difficultés à aller au bout des choses, et pourtant elle a toujours été au bout des choses. Et c'est quelque chose d'extraordinaire jusqu'à la fin de sa vie, ça, pour le coup. Elle était incapable de lâcher un projet. Parce que justement, il y a de la conviction derrière chaque projet. Et qu'elle s'exprime à la première personne, même quand elle ne s'exprime pas à la première personne, en fait. C'est son identité, et c'est l'identité de tous, comme elle dit. C'est comme ça qu'elle réfléchissait le monde.
Une petite citation, j'aimerais lire, suite à ça. C'est... parce que elle a rapidement beaucoup apprécié un cinéaste d'il y a longtemps, Jean Epstein, et qui et quand on connaît le cinéma de Jean Epstein et qu'on voit le cinéma de Jocelyne, on peut se raconter des choses sur la puissance poétique et puis aussi politique des images et du son. Alors elle dit ça de Jean Epstein. Et on remercie Stéphane Moreau qui nous a beaucoup aidé pour cette mission, même s'il n'est pas présent, mais il sera présent pour les prochaines. Je découvris, touché, un regard qui s'émerveille quand il filme, qu'il découvre le monde et s'en émeut. Un regard qui a la chance de passer par l'œil de la caméra et qui n'a peur de rien, vaillant comme l'œil d'un enfant. Un regard étonné qui embrasse la mère et ses amants, qui mesure sa spiritualité. Un regard qui donne la liberté à celui qui le porte, comme à ceux qui en découvrent les images. Et en lisant cette citation, avec tristesse, on n'arrive plus à comprendre pourquoi elle a été autant censurée dans le monde, hélas, dans lequel on vit.
Ouais, c'est terriblement juste et vrai. Face à la terreur, finalement... Le courage, ce n'est pas de les cris de joie et les applaudissements des imbéciles, c'est surtout de chercher la vérité, de la dire, et c'est ce que essaye de faire un cinéaste engagé, et autant plus engagé que révolutionnaire, comme l'a été Jocelyne. Et d'ailleurs, c'est vrai, c'est une femme de pudeur, mais aussi c'est une femme de lutte, parce que même à Paris, elle a vécu des années apparemment très très difficiles, où elle, pour se nourrir, elle allait au Secours populaire, faire la queue avec monsieur et madame Lamna. Et donc, pour le courage, c'est ça, c'est de ne pas subir... La domination du superflu réel, mais plutôt de chercher ce qui se cache dans les interstices. Et moi, je trouve aussi les textes qui étoffent beaucoup des films en partie documentaires de Jocelyne, Roger Assaf, quand il parle de la guerre, et qu'il dit qu'on a trop dit l'horreur et la dévastation, trop raconté la mort qui s'abattait sur nous. À la fin de ce texte, je ne sais pas si on avait choisi un extrait, Lolo.
Non, on en a écouté un, mais ce n'est pas celui-là.
Et il dit que de toutes ces images de la mort tellement superposées finalement, dans les guerres, les images qu'on retient le plus et qu'on se plaît à répondre, c'est tout ce qui exprime la présence d'un ennemi. Sa guerre, ses crimes, ses images projetées sur la ville, toutes ces images de la mort tellement superposées qu'on ne voyait plus les hommes accrochés à la vie, avec tant de passion qu'ils ont fondé la ville et lui donné une âme. Comme disait Mathilde tout à l'heure, comme ces fleurs sauvages qui poussent dans le macadam entre les pierres et le bitume. Et face à ça, aucune arme ne peut empêcher cette vie, cette renaissance. Ce qui me fait penser aussi que dans le désastre de la guerre, il y a aussi Il y a d'autres choses. Par exemple, on a cité tout à l'heure le faussaire de Volkner, de Volker Schlondorf, mais on n'a pas cité aussi l'Algérien Farouk Belloufa, qui lui aussi il s'intéresse à de près à ce qui se passe au Liban dans cette période, sachant très bien le monde entier, en tout cas dans les années 70, comme le racontent les économistes, on est dans une période de passation. On passe d'une époque à une autre, de l'époque industrielle à l'époque post-industrielle et la crise monétaire et financière qui arrive. Donc tout ce chamboulement s'est répercuté justement sur toutes les grandes métropoles portuaires et notamment à Beyrouth, exactement au Liban. Donc il y a cette guerre, cette ville-port monde où se déverse de la marchandise, etc. Il y a aussi l'envie de voir ce qui se passe dans pour conclure peut-être cette émission qui part avec cette musique du film de Farouk Belloufa dans Nahla. Ce que je voulais simplement préciser, que dans cet interstice, dans ces ruines urbaines, dans ce no man's land, il y a cette zone de séparation, cette ligne de démarcation qui s'appelle la ligne verte, n'est-ce pas, où d'un côté à l'est il y a une majorité chrétienne maronite et à l'ouest la majorité musulmane chiite. Voilà, c'est dans cette zone que tous ces tournages se déroulent, bizarrement. Il y a comme une sorte d'énergie, comme disait Cousteau, en découvrant dans l'interstice dans les mers froides et les mers chaudes, entre les mers salées et les non salées, il y a une matière à créer de l'énergie. Voilà.
Et voilà, on arrive vers la fin de l'émission. J'espère que vous avez pu prendre du plaisir à nous suivre. Il y aurait plein de choses encore qu'on voudrait dire, mais bon, le temps nous manque, et puis je pense que le temps nous manquera toujours pour raconter des choses autour de tout ce qu'a fait Jocelyne. Donc Mathilde est en train d'essayer de restaurer, on peut dire, une grande partie de sa filmographie qui semble être un travail long et surtout très dur de trouver des financements. Voilà, c'est pour ça que tu as monté une association, les amis de Jocelyne Saab. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour conclure.
Sur cette question-là, en fait, Jocelyne, on a beaucoup de chance, en fait. Jocelyne a réalisé un film dans les années 90 qui partait d'archives de films, d'archives de films filmés au Liban, et elle a fait un film avec ça, avec des morceaux d'archives, etc. Un film un peu fantaisiste, un docu-fiction, en fait. Et au moment où elle a commencé à travailler avec toutes ces archives-là, elle s'est rendue compte de l'importance d'archiver. Et elle a essayé de monter une cinémathèque au Liban pour essayer de préserver ces films-là. Et cette prise de conscience a fait qu'elle a déposé toutes ses bobines d'avant 95 au CNC. Donc en fait, on a, nous, accès au matériel de quasiment tous les films, sauf ceux qu'elle a fait pour des chaînes privées comme Canal+, par exemple. On a accès à tous ces films en 16 mm négatif. Et donc du coup, nous, on s'est engagés avec l'association des Amis de Jocelyne Saab à restaurer tout ce qui a été filmé en pellicule, donc à rescanner et à réétalonner, à restaurer et à sortir en DVD, à rendre disponible, surtout, c'est ça qui est important pour nous, dans un maximum de langues possibles, essayer de faire ça pour que les films soient vraiment accessibles, parce que pour l'instant, le problème, c'est que les films de Jocelyne sont quasiment invisibles. Ils ne sont pas accessibles facilement. On a mis quelques liens sur Vimeo, mais c'est pas, on ne fera exister une œuvre qu'en l'éditant et en la mettant à un grand public, et ça, c'est une mission que nous, on s'est donné à faire, parce qu'on pense que c'est important et que de toute façon les images qu'elle a faites sont des images importantes pour l'histoire de manière générale, et qu'il faut apprendre à voir aussi ces images là pour essayer d'avancer.
Complet, ouais. Et j'espère que tu réussiras et que tu iras comme Jocelyne, quoi qu'il arrive, au bout de ce projet. Et ça fait penser à plein d'autres projets possibles, comme on parlait, ou au Maroc, ou en
Algérie, au Maroc, autour du cinéaste Bonani et toute une histoire du cinéma. En Algérie aussi, on a une pensée pour Nabil Dejouani qui essaie de faire d'une autre manière et qui aurait des choses à faire à rencontrer toutes ces énergies-là. Voilà, on arrive à la fin de l'émission. Moi, je voulais juste dire que Jocelyne, moi, elle m'a fait beaucoup penser à un cinéaste français qui s'appelle René Vautier. Dans son parcours, je trouve que c'est vraiment très similaire. Je me posais la question s'ils se sont rencontrés. J'ai même pensé à Jean Genet ou à Jean-Luc Godard qui ont eu des histoires de cinéma très fortes. Voilà, c'est la fin de l'émission. On te remercie, Mathilde Rousset.
Merci beaucoup.
On te remercie, Way Mortada. Les amis de Jocelyne Saab. On termine par la belle musique du film de Nala, de Farouk. Lui, ça a été dur, il a pu en faire qu'un seul de film. C'est un très beau film et on vous conseille de le voir. Voilà, c'était Enquête d'un ciné, Radio Galère, 88.4. Et vous pouvez écouter toutes nos émissions, parce qu'on a bientôt passé les 10 ans, sur dérive.tv. Bonne soirée, à bientôt. Bonne soirée Waïb, bonne soirée Mathilde.
دورت ايام الشتي دورت وقت التل دورت